BW. Vue d'Allemagne.
Hystérie ou hystérie climatique, cette expression a été élue non-mot de l'année 2019 en Allemagne, où le débat sur la protection de l'environnement a occupé et occupe encore une large place. Explication dans un instant. À propos d'environnement, on verra aussi que le monde du football allemand fait des efforts en la matière, mais qu'il reste du chemin à parcourir. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène en Algarve, une région du Portugal très appréciée des touristes à la belle saison, mais qui dépérit en hiver, ou plutôt qui dépérissait. Le festival 365 Algarve, qui présente la culture et les traditions de l'Algarve, redonne vie à l'arrière-pays. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, bienvenue, Bem-vindo. On a souvent entendu l'expression « hystérie climatique » l'an dernier dans le débat politique en Allemagne, en particulier dans la bouche de responsables du parti d'extrême droite AfD qui entendaient discréditer le mouvement en faveur du climat porté notamment par les jeunes. Un jury de linguistes de l'université technique de Darmstadt, dans l'ouest de l'Allemagne, en a fait le non-mot de l'année 2019. Comme chaque année depuis 1991, l'objectif est d'attirer l'attention sur des expressions diffamatoires ou discriminatoires, en bref, des expressions contraires aux principes de la dignité humaine et de la démocratie. Parmi les candidats de cette édition figurait aussi la dictature écolo. On reste dans le même registre. Hystérie ou pas, le débat sur la protection du climat a bel et bien dominé l'espace public en 2019 et il continue de le faire en ce début d'année, notamment dans un domaine où on ne l'attend pas forcément, le football. Et pourtant, avec des stades éclairés par de puissants projecteurs et aux pelouses chauffées, mais aussi le transport des équipes et des supporters ou les déchets après leur passage sur les gradins, le football est une activité polluante à bien des égards. Cela fait un moment déjà que les clubs du championnat allemand de la Bundesliga font des efforts pour réduire leur pollution, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est ce qu'explique Thomas Fischer de l'association environnementale allemande Deutsche Umwelthilfe.
Il y a principalement quatre domaines dans lesquels les clubs de la Bundesliga mettent en pratique des mesures de protection du climat. Transport et émissions de CO2, déchets, eau et énergie. Beaucoup de clubs se facilitent la tâche en ne mettant en œuvre que les choses qui ne requièrent pas trop de gros investissements, comme par exemple utiliser de l'électricité verte ou remplacer toutes les ampoules par des LED pour économiser de l'énergie. Mais il y a d'autres mesures moins évidentes à appliquer car elles touchent les infrastructures, comme la transformation des stades avec des concepts de circulation intelligente pour l'arrivée des supporters ou bien des systèmes de consignes pour les boissons. Ce sont des choses qui sont difficiles pour beaucoup de clubs.
À chaque week-end de Bundesliga, les supporters produisent à eux seuls environ 7800 tonnes de CO2, selon l'agence environnementale CO2OL, qui a réalisé une étude pour le compte de la radio publique Deutschlandfunk. Il faudrait planter 60 000 arbres pour compenser ces émissions polluantes et plus de 2 millions pour toute la saison, sans compter l'empreinte carbone des équipes, qui sont généralement transportées en avion pour jouer les matchs à l'extérieur. Selon la Deutsche Umwelthilfe, il y a encore une grande marge de manœuvre pour faire du foot un sport plus vert. Longtemps, la protection du climat n'a pas été considérée comme une priorité et aujourd'hui encore, certains clubs recourent à des astuces pour remplir les objectifs environnementaux, regrette Thomas Fischer.
Il
faut garder un œil critique quand des clubs de Bundesliga affirment leur neutralité climatique, car pour y arriver, ils achètent des certificats climatiques. Bien sûr, on peut planter des arbres au Canada et apporter ainsi sa contribution à la protection du climat, mais cela ne résout pas les problèmes là où les émissions ou les déchets sont produits. On devrait plutôt essayer de résoudre les problèmes sur place, car la neutralité climatique suppose, et les supporters le comprennent ainsi, que les matchs soient organisés de manière à ne pas produire d'émissions polluantes. Or, ce n'est pas le cas. Elles sont quand même produites.
Quelques clubs sortent toutefois du lot, comme celui du Werder Brême qui a mis en place un concept de circulation anti-voiture. Le SC Fribourg, lui, mise sur une action locale en faveur du climat. Le club coopère avec l'organisation WWF sur un projet de protection de la nature en Forêt-Noire, quasiment au pas de la porte. Des actions sont régulièrement organisées pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux questions environnementales. Hanno Frank, directeur marketing du SC Fribourg, se félicite de voir son club engagé pour la défense du climat. du climat.
Ce n'était pas le plan marketing intelligent, c'est surtout la persuasion dont les protagonistes ont fait preuve en disant « Fribourg est une ville durable avec une image verte ». En tant que club de football, nous devons nous impliquer dans cette histoire. À l'époque, on nous l'a d'ailleurs déconseillé. Nous avons eu des sociétés de conseil qui nous ont dit qu'on était beaucoup trop vert. C'était des cabinets de consultants du milieu des années 90.
Les employés du club sont formés en conséquence et même si le club est considéré comme une sorte de leader du secteur avec ses 25 ans d'expérience, cela ne l'empêche pas de continuer d'être ouvert à de nouvelles idées.
J'ai récemment reçu des représentants du mouvement Fridays for Future. Il en est sorti des idées très originales car les jeunes observent des choses auxquelles on ne fait plus forcément attention. Ils trouvent certaines choses importantes, ils envoient un mail et cela donne des impulsions au club.
En mars 2019, les 36 clubs de la Bundesliga se sont assis pour la première fois à une même table pour échanger sur les bonnes pratiques en faveur du climat. Mais l'association allemande de football, DFL, qui gère la Bundesliga, n'a toujours pas d'interlocuteur désigné. Ce qui fait dire à Thomas Fischer de la Deutsche Umwelthilfe que le football allemand manque de stratégie dans ce domaine.
La Bundesliga
a besoin d'un concept global pour l'environnement. Il faudrait que la DFL désigne des personnes responsable de toutes les activités en faveur du climat de la Bundesliga. Il faudrait définir un objectif climatique à moyen terme. Il faudrait également fournir aux clubs des instructions et des directives pour qu'ils puissent plus facilement mettre en œuvre la protection de l'environnement et que tout le monde n'ait pas à faire des erreurs dont ils tirent des enseignements. La DFL doit donc jouer un rôle central dans la protection de l'environnement en Bundesliga. On ne voit rien de cela à l'heure actuelle.
La Deutsche Umwelthilfe souhaiterait voir autant d'engagement de la part de l'association allemande de football dans la protection de l'environnement que dans les négociations pour l'attribution des licences et des droits de retransmission. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Comme promis, on part pour le Portugal, mais virtuellement pour ne pas trop polluer. Pour la quatrième année consécutive, la culture et le tourisme portugais se sont unis pour proposer un vaste programme culturel destiné à faire vivre l'Algarve hors saison. Cette région, située tout à fait au sud du pays, est très appréciée l'été en raison de ses plages et de l'océan plus chaud. Mais 8 mois par an, l'Algarve végète, comme d'autres régions rurales et touristiques du continent européen. C'est pour inverser cette tendance qu'a été lancé un programme à la rencontre entre culture et tradition. Avec ses propositions très diverses et parfois très originales, 365 Algarve se taille un franc succès. Locaux et étrangers à la région découvrent un merveilleux arrière-pays, comme nous le montre ce reportage de Marilyn Darcy.
L'Algarve, dont le nom vient de l'arabe Algarve, Occident, fut longtemps occupé par les musulmans de Al-Andalus. Le chant de Katia Aliendra du groupe Fadnou est là pour rappeler cette origine de la province portugaise. Fadnou se produit aux Fontaines d'Estombar, parc semi-urbain à Lagoa, et fait partie d'une pantomime jouée par une agence touristique. On y raconte avec humour l'histoire de l'Algarve. Le spectacle fait partie de la programmation 365 Algarve, une initiative culturelle pour faire connaître l'arrière-pays, hors saison, loin du remue-ménage de la côte en été. Pour lutter contre la mort lente de la campagne, le programme est une belle trouvaille. Paulo Ferreira, l'un des responsables du spectacle.
Tout ce que l'on fait ici, la reconstitution historique, l'artisanat, c'est une manière pour les gens de connaître l'Algarve profond, celui des traditions et de l'histoire. Le spectacle a été spécialement conçu pour le 365 Algarve.
L'objectif de 365 Algarve est de proposer des dizaines et des dizaines de spectacles et d'animations en tout genre, d'octobre à mai. Au milieu des champs, dans les montagnes intérieures, dans les villages isolés, on fédère les énergies pour faire vivre le patrimoine et la culture. Annabella Fonseca est la commissaire responsable de 365 Algarve.
L'Algarve est gravement touchée par la désertification humaine et l'un des objectifs de 365 Algarve, c'est de faire connaître un Algarve oublié, son architecture unique, ses traditions liées au cycle de l'agriculture très spécifique, car tout ça disparaît en même temps que la population résidente sur le territoire vieillit et meurt. Les activités meurent avec elle.
Le cliquetis du cartacho s'inspire du nom d'un oiseau qui porte ce nom. Le petit instrument traditionnel fait de cannes de roseau rythme les mélopées algarviennes. José, ancien ouvrier métallo, a toujours fabriqué le cartacho ou d'autres instruments traditionnels. Il dirige un atelier de fabrication pour les visiteurs du 365 Algarve.
Notre atelier vise à faire découvrir les instruments de musique traditionnels à une époque où il n'y avait rien d'autre, juste ces morceaux de roseaux assemblés qui font ce drôle de bruit.
À 30 km de Lagoa, sur les hauteurs, Manchik est le cœur de la Serra, les montagnes qui portent son nom. Un gros bourg, lui aussi entraîné vers le déclin. Près du lieu-dit Barranco de Pisonche, le maire a restauré l'ancien moulin à eau. Régulièrement mis à fonctionner, le moulin de Pocchino est devenu une attraction. Il permet, à sa manière, de lutter contre la désertification. José Gonçalves Silva, maire de Pisonche.
Ici, on est à seulement 20 km du littoral de l'Algarve. Mais on sent vraiment qu'on est à l'intérieur des terres. On perd des habitants, environ 70 par an. La tendance ne s'est pas inversée, mais ce genre d'initiative, comme le 365 Algarve, est fondamental pour dynamiser le territoire et aider à fixer les gens.
L'un des programmes de 365 Algarve s'appelle « En chantant sur l'Algarviane ». C'est le nom donné au chemin de grande randonnée qui traverse l'Algarve d'est en ouest par les montagnes. Un GR pas toujours facile, mais dont les étapes délicieuses relancent l'activité rurale. José Gonçalves Silva.
Ça m'aide.
L'Algarviane, c'est une aide. Les gens passent ici, s'arrêtent pour manger, restent dormir parfois. Il y a de l'offre en hôtellerie, mais c'est souvent familial. Un père, une mère, des enfants et parfois un ou deux employés. On ne peut pas dire que ça crée beaucoup d'emplois, mais au moins ces gens-là n'émigrent pas.
En redescendant de la montagne, les fêtes de village sont l'occasion d'entendre du chant choral ou des groupes musicaux régionaux. Le 365 Algarve, que les gens ont pris l'habitude d'appeler 365, propose une énorme variété d'activités. Du jazz dans les chais des viticulteurs, du nouveau cirque au milieu de nulle part, des balades sur les traces des anciens contrebandiers ou de la danse contemporaine. Avec plus de 100 000 spectateurs par an, 365 Algarve est en train de gagner son pari, celui d'amener la culture au champ et d'aider à fixer les populations.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Marilyn Darcy pour le reportage en Algarve et à Andreas Steen-Simons pour les sons sur la Bundesliga et l'environnement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotte à Talon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss! Mas eu já não sei viver. Eu que cortei cabelos, eu que desfiz novelos, eu que dei tudo para avançar. Mas eu já não sei andar. Eu que senti que vibrei quando vi que podia existir alguém assim. Eu que chorei, que sofri, que tentei amarrar tal que há de triste em mim. Eu que troquei de carro, eu que limpei o sarro, eu que tentei o corpo erguer. Eu
triste.